Bonjour à tous et à chacun. J'ai intitulé mon message, parce que je crois qu'il est important d'avoir un titre, « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». C'est une citation du prophète Ésaïe. « Mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées à vous les humains ». Et je vous propose une lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16. Évangile de Matthieu, au chapitre 16. Et c'est drôle parce que Chantal a présenté tout à l'heure le sujet qui va être traité pour les enfants, enfin, le groupe des petits moyens, qui est Jésus, et vous allez voir, c'est la question. On ne s'est pas concerté. Hein. Donc Matthieu 16, à partir du verset 13. Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, se mit à demander à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Je dis au passage que cette expression, le Fils de l'homme, elle revient très souvent dans la bouche de Jésus, et quand il l'emploie, c'est pour se désigner lui-même. Très certainement, une allusion à cette même expression utilisée par le prophète Daniel au sujet du Messie. Donc, le Fils de l'homme, c'est Jésus. Et donc, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le baptiseur, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et pour vous, leur dit-il, qui suis-je? Simon-Pierre répondit, toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et se réveiller le troisième jour. Là, c'est une traduction très littérale. Réveiller, ça veut dire ressusciter. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant, « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Mais lui se retourna et dit à Pierre, « Va-t'en derrière moi, Satan. Tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Et à quoi servira-t-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Ou bien que donnera un être humain en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres ou selon sa manière d'agir. » Voilà donc ce passage qui contient énormément de choses. On va essayer de cerner un peu le problème, surtout sur la question de nos pensées. Les disciples de Jésus ont déjà vécu énormément de choses avec lui lorsqu'il leur pose cette question. Ils ont vu les miracles et les prodiges qu'il accomplissait. Ils ont entendu quotidiennement son enseignement, radicalement différent d'ailleurs de celui des scribes et des spécialistes de la loi. On trouve ça en Matthieu 7, versets 28-29, on peut juste regarder le passage, Matthieu 7. Verset 28, il est écrit « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, les foules étaient ébahies de son enseignement, car il les instruisait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme leurs scribes. » Donc l'enseignement de Jésus était radicalement différent, semble-t-il, de celui des spécialistes de l'époque, des spécialistes religieux qui enseignaient le peuple, parce qu'il était revêtu d'autorité. Ça, on veut bien le croire, hein, l'autorité du Fils de Dieu lui-même. Ce point est intéressant. Ce n'était pas les spéculations théologiques, hein, des spécialistes de l'époque, disséquant à l'infini la loi et y mêlant en plus leur tradition, mais la parole du Seigneur, dans toute son autorité. Les actes de puissance et de compassion de Jésus démontraient que le royaume de Dieu était parvenu jusqu'à eux, qu'il était inauguré, comme l'avait annoncé Jean-Baptiste et comme l'a affirmé Jésus lui-même. Mais parvenu à ce point de son ministère, Jésus teste ses disciples avec cette double question. Qui disent les hommes que je suis ? C'est-à-dire, quelle est l'opinion générale ? Et on voit les réponses qui peuvent nous paraître un peu étranges, hein, pour nous, hommes du 21e siècle. Certains disent Jean le baptiseur, alors que Jean le baptiseur était mort. Il avait été mis à mort par le roi Hérode. Jérémie, un prophète mort depuis bien longtemps. Ou l'un des prophètes, manifestement, bon, les gens ne savaient pas trop. D'ailleurs, le roi Hérode, qui avait fait mettre à mort, un peu contre son gré d'ailleurs, Jean le baptiseur, vous connaissez cette histoire, il s'était lié lui-même par un serment bien imprudent dont il n'avait pas eu le courage de dégager. Dans un vague sursaut de culpabilité, il avait dit, donc ce roi Hérode, en apprenant la renommée de Jésus, et notamment les miracles qu'il faisait, il avait dit « C'est Jean le baptiseur que j'ai fait décapiter. » Vous voyez que ce roi impie, ce roi Hérode, croyait à la résurrection, hein. Ça peut me paraître étonnant. Il est ressuscité des morts, avait dit Hérode. Ça nous montre donc que ce roi cruel et corrompu croyait à la résurrection des morts. On peut croire des choses spirituellement tout à fait justes et être pour autant réprouvé aux yeux de Dieu. D'ailleurs, les disciples eux-mêmes ne savaient comment interpréter les prophéties concernant Élie. Par exemple, si on regarde au chapitre 17, les versets 10 à 13, donc Matthieu 17, versets 10 à 13, les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie vient tout rétablir. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. » Ah bon ? Ils ne l'ont pas reconnu et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, ils vont faire souffrir le Fils de l'homme. Et là donc Matthieu nous rajoute, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Donc vous voyez, il était bien prévu effectivement que quelqu'un viendrait dans l'esprit du grand prophète Élie pour annoncer le Sauveur, et c'était Jean le baptiseur. Ces citations que font les disciples de l'opinion générale reflètent bien l'incapacité qui est celle des hommes sans l'Esprit de Dieu de comprendre ce qui est en train de se passer. Alors Jésus leur pose sa deuxième question. Et vous ? Je suis qui pour vous ? Et là, on voit que Pierre a la réponse juste. Que même les plus grands docteurs juifs n'avaient pas entrevu. Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous savez que le mot Christ veut dire Messie, hein, c'est la même chose. Loin de l'Éternel, celui qui a été loin par Dieu, le Messie, le Christ. Le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus dit à Pierre qu'il est heureux, il est makarios, parce qu'il a bénéficié d'une révélation du Père lui-même. Ce n'était pas une pensée charnelle. Ce n'était pas la pensée charnelle de Pierre, comme celle de ses contemporains, mais une pensée spirituelle conforme à la pensée de Dieu. Une béatitude est attachée au fait de penser comme Dieu, puisqu'il lui dit « tu es bienheureux ». Nous apprenons là qu'il est heureux de penser comme Dieu. Il y a un bonheur spécial à penser comme Dieu, qui nous communique une joie surnaturelle. Alors Jésus déclare ensuite, on l'a lu, hein, des choses tout à fait extraordinaires à Pierre. Sur ce fait fondamental qui a été révélé à Pierre, Jésus va construire son Église. Non pas sur Pierre lui-même, comme l'ont compris les docteurs de l'Église catholique romaine, par exemple, mais sur ce fondement solide, ce rocher inébranlable, Christ lui-même, la pierre rejetée par ceux qui étaient censés bâtir, posée par Dieu comme le fondement de son nouveau peuple, de son nouveau temple, de l'Église. Par exemple, l'apôtre Paul, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 3, dit clairement quel est ce fondement. 1 Corinthiens, chapitre 3, au verset 11. Personne, en effet, ne peut poser d'autre fondation que celle qui est en place, à savoir Jésus-Christ. Mais, on l'a lu, il y ajoute la promesse du verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Vous savez que on représente très souvent l'apôtre Pierre avec un trousseau de clés, de même qu'on représente l'apôtre Paul avec la parole de Dieu dans la main et une épée, et on représente Pierre avec des clés. Bon, ça vient certainement, bien sûr, de cette parole de Jésus. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit en plus, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Promesse extraordinaire d'une autorité dont Pierre va faire usage, comme cela est relaté notamment dans le livre des Actes des Apôtres. Par exemple, Pierre, vous le savez, au moment de la Pentecôte, a prêché à Jérusalem devant une grande foule, et sa prédication a déclenché la conversion de 3000 personnes. Et il y a eu 3000 baptêmes au nom du Seigneur Jésus. Il a délié ces 3000 personnes par la prédication de la parole de Dieu. Et 3000 personnes qui étaient jusque-là sous le pouvoir de Satan se sont trouvées déliées dans les cieux. Il a aussi délié un impotent, vous savez, cet homme qui n'avait jamais marché, qui était infirme de naissance et qui mendiait à la porte du temple. On trouve cela dans au troisième chapitre des Actes des Apôtres. Il n'avait jamais marché sur cette terre et c'est bien dans les cieux que cet acte de puissance a été ratifié. Pierre le précise aussitôt au peuple qui s'étonnait de ce miracle. C'est par la foi en son nom de Jésus que son nom même, a rendu fort cet homme que vous connaissez, que vous voyez et que vous connaissez. Jésus étant au ciel, bien sûr, à ce moment-là. Donc Pierre délie cet homme de son infirmité sur cette terre. Et elle est déliée aussitôt dans les cieux avec cet acte de puissance, ce miracle. Cet homme se lève et se met à sauter, à marcher et à accompagner Pierre et Jean dans le temple. Il a aussi, et c'est impressionnant, lié Ananias et Saphira, qui sont tous deux morts à la parole de Pierre pour avoir tenté de mentir au Saint-Esprit. Il est clair que ce n'est pas Pierre qui les a tués, qui les a fait mourir, mais un jugement divin lié dans le ciel. Et il va magnifiquement se servir des clés qui lui ont été données par le Maître pour ouvrir aux Juifs à la Pentecôte, puis aux Samaritains un peu plus tard, puis aux païens, avec Corneille notamment, l'entrée dans le royaume des cieux. Son œuvre auprès des païens étant ensuite extraordinairement continuée et développée par le grand apôtre des nations, c'est-à-dire l'apôtre Paul. Alors après cette révélation extraordinaire et sur cette base, Jésus continue à révéler le plan de Dieu le concernant. À savoir, on l'a lu, que lui, Jésus, allait souffrir beaucoup de la part des autorités religieuses juives pour finalement être condamné et mis à mort et ressuscité au troisième jour. Alors là, Pierre reprend l'initiative. D'ailleurs, quand il prend l'initiative, c'est toujours un peu le reflet de la pensée de ses copains. Hein. Et là, on peut dire en langage moderne qu'il se plante lamentablement. Tout heureux qu'il était des promesses qu'il venait de recevoir de la part de son Seigneur, il se précipite à son secours pour lui enlever ses funestes pensées. Ces funestes pensées qu'il vient juste d'exprimer. La traduction de la nouvelle seconde que j'ai là dit « il le rabroua ». Vous faites gonfler quand même. Et de fait, le verbe utilisé dans le texte grec est un verbe fort hein, qui veut dire « adresser des reproches »,« reprendre ». Bien sûr, ça partait de très bons sentiments de la part de Pierre. Mais il était néanmoins complètement à côté de la plaque. La réaction du Seigneur peut nous étonner par sa brutalité. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Jésus dit clairement que cette pensée n'est pas de Dieu, qu'elle est même de Satan. Et souvenons-nous de la tentation au désert que notre Seigneur a vécue. Quelles étaient les suggestions de Satan ? De pousser Jésus à utiliser ses pouvoirs surnaturels et de recevoir de lui l'autorité sur les royaumes de ce monde et leur gloire. Tu mets en scandale. C'est-à-dire, tu veux toi aussi me faire tomber, me détourner de réaliser la mission pour laquelle, sans laquelle il n'y a aucun espoir de salut pour l'humanité. La deuxième partie du verset 23, qu'on a lu, donc tu es pour moi une cause de chute, car tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. C'est bien là le problème. Et dans les versets suivants, Jésus va expliquer à ses disciples la seule voie possible pour venir à sa suite, c'est-à-dire pour penser comme Dieu, renoncer à soi-même ou se renier soi-même, se charger de sa croix et le suivre. Et il parle de la vanité de vouloir gagner le monde entier aux dépens de sa propre vie, cette même tentation que le diable lui avait suggérée au désert. La seule voie qui nous garantit un bonheur présent et éternel, c'est de perdre notre vie à cause de lui. Car il y aura un jugement inéluctable sur notre vie, qu'on a lu au verset 27. Le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir, ou selon ses œuvres. Alors qu'est-ce que ça veut dire perdre sa vie ? Eh bien c'est renoncer ce après quoi courent les hommes naturellement, et y renoncer à cause de Jésus. Parce que nos actes sont le reflet de nos pensées, et que le secret d'une vie spirituellement heureuse, c'est de penser avec Dieu ou comme Dieu. Et ça, c'est totalement surnaturel. Le prophète Ésaïe a écrit au chapitre 55, verset 6, « Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, parce que ce temps aura un terme. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. » Le même prophète, vous le savez, est clair sur le fait que nous sommes tous naturellement méchants et malfaisants. Qu'il revienne au Seigneur, qui aura compassion de lui. Et ça, non seulement lors de notre conversion, mais je dirais tout au long de notre vie terrestre. Revenons en permanence à notre Dieu, qui pardonne abondamment. Il sait que nos pensées déraillent si facilement. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, écrit le prophète sous l'inspiration de Dieu. Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Alors cette déclaration est-elle dans la Bible pour nous décourager ? Jamais on ne pourra penser comme Dieu. Ben non, je ne pense pas. Et Paul affirme des choses très fortes. Par exemple, il dit en 1 Corinthiens 2, verset 16, « Or nous, nous avons la pensée de Christ. » C'est énorme. C'est énorme, mais c'est vrai. Et il ne se contente pas d'un principe théologique théorique, mais il nous donne quelques conseils. Par exemple, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, verset 8, il dit au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et il rajoute, ce qu'on n'oserait jamais dire, ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique. Il avait raison. Et le Dieu de paix sera avec vous. La paix est attachée à ça. Dans la même épître, au verset 7, il dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute pensée gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Alors, penser avec Dieu ou comme Dieu, ça le glorifie et nous donne aussi de vivre avec la paix de Dieu, quelles que soient les circonstances. Cela vaut vraiment la peine. Alors, exerçons-nous au quotidien. Ce que je pense et qui détermine mon agir, est-il vrai? Est-il juste? Est-il pur? Est-il aimable? Approuvé par Dieu, moralement bon et digne de louange? Et puis aussi, comme le disait M. Blocher, parce que j'écoute en ce moment un DVD que m'a passé Jean-Pierre, comme le disait M. Blocher à l'un de ses auditeurs, qui lui demandait comment il pouvait affirmer certaines de ses conclusions sur des questions difficiles avec autant de certitude. « Voyez-vous, disait-il, c'est la fréquentation assidue de la parole de Dieu qui façonne mes pensées. » Et je crois que c'est sûrement très très vrai. On se laisse instruire, on se laisse façonner dans notre façon de penser aussi par la fréquentation assidue de sa parole, de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur façonne ainsi nos pensées par la fréquentation de sa parole et la recherche de ce qui est digne, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est moralement bon, digne de louange. Ainsi, il pourra approuver notre service et nous le glorifierons par nos vies.